En Éthiopie, après la défaite des rebelles à la solde de Washington, le nouveau scénario de déstabilisation serait d'instaurer une guerre interreligieuse. Le Bureau régional de la paix et de la sécurité de l'État d'Amara a déclaré que 373 personnes avaient été arrêtées dans la ville de Gonder à la suite de la récente tuerie. Des violences visant des personnes en deuil musulmanes ont éclaté le 26 avril lors des funérailles du cheikh Kamal Legas, un cheikh local important de la ville, décédé des suites d'une courte maladie. Le chef du bureau a déclaré aux médias d'État qu'un couvre-feu avait été mis en place dans la ville, limitant les déplacements des véhicules et des personnes à partir de 19h, heure locale, une interdiction qui est également imposée aux individus de ne pas porter d'armes, y compris le port d'uniforme de sécurité, ainsi que l'interdiction d'entrée ou de sortie d'armes dans la ville. Bien que plusieurs travaux aient été effectués pour stabiliser la situation et ramener la ville à la normale, des troubles ont tout de même été causés par des facteurs internes et externes, y compris les médias sociaux, jusqu'au jeudi 28 avril, comme donc l'a déclaré Dessalegne. Selon lui, plus de 20 bâtiments commerciaux et résidentiels ont été incendiés et 11 maisons ont été partiellement et complètement pillées, a-t-il déclaré. Le nombre de victimes s'élève à 14, a-t-il dit, et a ajouté qu'ils étaient donc des deux confessions. Et jusqu'à ce présent, donc 7 corps ont été emportés par des membres de la famille après avoir présenté des papiers d'hôpital et quelques 118 personnes qui ont subi des blessures mineures et graves sont soignées, a-t-il déclaré. Les individus arrêtés ont joué un rôle majeur dans les activités liées aux gangs, les vols et les incendies criminels, entre autres, a-t-il déclaré, et des travaux étaient en cours donc pour poursuivre les forces de sécurité et les dirigeants politiques qui ont joué un rôle direct ou indirect dans l'aggravation du problème en ne parvenant pas à agir rapidement et ignorant également la situation qui a poursuivi donc son arrestation. Le bureau a averti qu'il ne tolérerait pas les efforts fournis par certains pour raviver la crise dans la ville. La communauté musulmane donc continue de rendre hommage en Éthiopie à ses victimes après l'attaque sanglante perpétrée ce mardi, le village de Gondar, donc au nord du pays, au cours d'une cérémonie funéraire. Donc c'est très triste, des personnes innocentes qui assistaient à un enterrement ont été attaquées sans raison, environ 20 personnes et plus ont perdu la vie, comme le témoigne donc un Éthiopien venu à la fois afficher sa solidarité avec les familles des victimes mais aussi sa colère dans la capitale Addis Abeba. Sur la place Meskel se trouvent aussi donc des étudiants et une étudiante en particulier a affirmé que c'est comme si mon propre frère avait été tué, indique une jeune femme. Nous ressentons un profond chagrin. L'islam est une religion de moralité, nous devons donc la respecter et si nous nous laissions guider par nos émotions, cela pourrait être le chaos. C'est très émouvant. L'attaque s'est produite lors de la dernière semaine du Ramadan qui prend fin le 2 mai. Elle a été imputée par le Conseil des affaires musulmanes de la région touchée à des extrémistes chrétiens, même si le maire de Gondar n'a pas encore précisé la communauté dont seraient issus les assaillants. La région est très majoritairement peuplée de chrétiens orthodoxes, religion la plus représentée en Éthiopie, et la communauté musulmane, elle, comprend environ 40% de pratiquants. Mais comme partout en Afrique, les problèmes interreligieux n'existent pas. Pas sur le continent africain. Le secrétaire général de l'ONU a souhaité ce dimanche que les militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali se retirent au plus vite, avant évidemment qu'une alliance entre ces trois pays ne se mette définitivement en place aux grandes dames de l'Occident. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto de ces trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs, a déclaré Antonio Guterres après avoir rencontré le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Mais face à la fronde des militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest, qui défient la CEDEAO constamment, l'institution ouest-africaine à la solde des Occidentaux a répondu par un bref communiqué renvoyant ces menaces aux calendes grecques. L'institution s'avoue donc désarmée et constate qu'elle est incapable de forcer les colonels insoumis à revenir à l'ordre constitutionnel dans des délais, selon eux, raisonnables. La CEDEAO avait donné aux militaires guinéens et burkinabés un délai pour proposer des calendriers de transition acceptables, encore selon eux. La date limite avait été fixée au 25 avril 2022, mais les deux pays ont demandé des délais supplémentaires. Si la requête de Ouagadougou paraît acceptable, en revanche, celle de Conakry dépasse les bornes et de très loin. Le lieutenant-colonel Damiba et ses frères d'armes ont pris le pouvoir le 24 janvier, et c'est peu de dire que jusqu'à présent, la CEDEAO attrape des cheveux blancs. Elle a jusqu'à ce jour simplement suspendu le Burkina Faso de ses instances et rien de plus. Et de son côté, les militaires ont donné un gage en permettant au président déchu, Roch Marc Christian Kabore, de regagner son domicile où il est néanmoins étroitement surveillé. C'est le seul geste de volonté qu'elle a manifesté. Elle a validé une charte de la transition fixant celle-ci à 3 très longues années, un délai inacceptable pour l'institution sous-régionale et probablement pour les militaires eux-mêmes qui risquent d'être contestés dans la rue s'ils ne parviennent pas à ramener la sécurité sur le territoire, mais surtout s'ils s'allient à Barkhane et à la France. Quant au colonel Doumbouya, qui a perpétré son coup d'État en septembre 2021, et depuis 8 mois, la CEDEAO lui a demandé de publier un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel, ce que le putschiste ne s'est pas encore résolu à faire. Les sanctions prises par l'organisation présidée actuellement par le Ghanéen Nana Akufo-Addo ont été minimales. Gel des avoirs et interdiction de voyage pour les militaires au pouvoir. Mais comment la CEDEAO peut-elle réagir face à ce non-respect de sa charte, alors qu'elle-même a démontré au monde qu'elle adopte une politique de deux poids deux mesures face aux pays du Sahel? Cela a été beaucoup commenté, écrit même, mais donc il n'est pas moins vrai. Le fait qu'elle ait validé les troisième mandats anticonstitutionnels d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara lors des élections présidentielles de 2020 ont totalement décrédibilisé l'institution. De plus, sa surdité et sa volonté aveugle de vouloir absolument suivre les diktats que lui imposent en l'occurrence la France et ses alliés occidentaux face à leur humiliation qu'ils n'arrêtent pas de subir en Afrique de l'Ouest a complètement retiré toute la crédibilité de l'instance aux yeux des Africains. Ce n'est toutefois pas le seul problème auquel les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont confrontés. Les sanctions très lourdes qui ont imposé donc au Mali n'ont pas porté leurs fruits. Bamako n'a cesse de faire un pas vers la CEDEAO, donc, qui a préféré donc fermer les yeux quant à la volonté du peuple malien et à sa volonté de vouloir d'abord sécuriser le pays avant de mettre en place des élections. En outre, ces mesures drastiques donc, ont pénalisé les États voisins, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, même si elles ne sont pas appliquées à la lettre. Sinon, évidemment, ces pays essuieraient des pertes considérables. En prime, la CEDEAO, qui était déjà perçue par les populations comme étant un syndicat de chefs d'État à la solde de l'Occident, est devenue encore plus impopulaire après les punitions infligées au Mali. Elle fait face donc à une véritable fronde dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Imposer des sanctions donc au Burkina Faso et à la Guinée ne ferait que renforcer les mécontentements et inversement, cela augmenterait la cote des militaires. Alors que le seul but de la CEDEAO et de ses maîtres occidentaux, c'est bien de tout faire pour empêcher ces trois pays de s'unir, comme l'a déjà montré le récent voyage du colonel Damiba à Bamako. Mais que reste-t-il à la CEDEAO comme outil? Menacée avec son bras armé, les Comogues, donc comme elle avait envisagé de le faire au Mali après le coup dans le coup de mai 2021, inenvisageable dans la mesure où elle a échoué avec la MISMA et n'a pas été en mesure de mettre en place une force pour lutter contre le terrorisme, elle se ridiculiserait. Il ne lui reste plus que la patience et la diplomatie, et surtout le fait de se plier à la volonté du peuple. C'est une victoire pour ces trois pays qui sont en voie de neutraliser entièrement cette instance, encore sous le diktat coloniale. Au Mali, Barkhane éjecté de la terre et du ciel malien. Intimidation, espionnage, massacre, subversion, la France s'adonnait à ces actes répréhensibles sur le territoire malien en toute illégalité. En tant qu'État souverain, le gouvernement du Mali l'a rappelé à l'ordre et l'a invité à inscrire ses actions dans un cadre de respect mutuel. La France s'est faite donc éjecter de la terre malienne et les FAM a continué de gagner du terrain. Maintenant, en ayant coupé l'accès de Barkhane au ciel malien, l'aviation militaire malienne reprend également le contrôle du ciel du pays. La France continue donc désespérément de créer des scénarios pour discréditer l'armée malienne et aussi les êtres russes, mais les forces armées maliennes continue malgré tout à avancer dans la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées a informé l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes respectivement dans le secteur de Yirma les 27 et 28 avril, Niassossébé et Sossobé Togoro le 29 avril. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des FAMA ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme suite secteur de Yirma. Dans la nuit du 27 au 28, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, donc dans la localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaque par des terroristes de la Katiba Serma et Ansarul al-Islam. La cible détruite était la base du territoire Ousmane Ima, alias Abu Adama, le petit frère du terroriste recherché avec le bilan suite 12 terroristes neutralisés, 7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Issey pour y recevoir des soins, 3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm et plusieurs motos dont un tricycle brûlé dans le secteur de Niasso, Sebe Sodsobe, Togoro. Les frappes ont ciblé un important dépôt logistique des terroristes. Cette cache, donc, a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissantes incendies, donc observés après les frappes, confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements donc de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dongars, donc Togere, Kumbe, Walo et Sossobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kaba ont fait l'objet donc d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les FAMA engagés dans la protection de paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et de leur soutien. Par ailleurs, le 29 avril, la précision des renseignements a également permis de suivre et interpeller un terroriste parlant la langue Zerma, donc une langue d'un pays voisin, et tentant de s'infiltrer donc dans la base aérienne 103 de Gao. Le succès et l'efficacité donc de ces actions affaiblissent les groupes terroristes, les privent de moyens de pression contre les populations maliennes et renforcent les FAMA dans l'exécution de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire, de protection des personnes et de leurs biens. Le suivi de la réaction donc des groupes terroristes et l'exploitation des renseignements ultérieurs permettront également de poursuivre des opérations de recherche de destruction des sanctuaires terroristes jusqu'à la stabilisation complète du pays. Les importants efforts consentis par les FAMA pour le recouvrement des renseignements et la précision des frappes, parfois au risque de laisser échapper certaines opportunités, témoignent de l'engagement de l'état-major général des armées et des FAMA pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui reste une priorité dans la conduite des opérations. L'état-major général des armées saisit cette opportunité pour inviter donc les braves populations durement et longuement éprouvées par la barbarie des terroristes à se démarquer encore une fois de leur emprise et à continuer à soutenir les forces armées maliennes. Une chose est sûre, donc, que ce soit sur terre comme au ciel, sans la présence de Barkhane dans la zone, le terrorisme meurt.
Au Cameroun, une sénatrice a été enlevée en zone anglophone. Madame Elisabeth Regina Mundi, sénatrice du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir, a été kidnappée samedi 30 avril aux environs de 12 heures heure locale dans la localité de Foncia Street à Bamenda, indiqué à l'agence Anadolu Adolphe Lelé-Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest. Au moment de son rap, elle était en compagnie de son chauffeur, lui aussi enlevé à bord de leur véhicule, a précisé le gouverneur, ajoutant que des recherches sont en cours pour retrouver les otages et les libérer. Dans une vidéo postée dimanche sur les réseaux sociaux, le mouvement armé Ambazonia Defense Force a revendiqué le kidnapping. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi à cet enlèvement ou encore plus sur les revendications du groupe sécessionniste Ambazonia Defense Force. Au Mali, 12 terroristes ont été éliminés dans des frappes de l'armée contre une base terroriste dans le centre du pays. L'armée malienne a mené dans la nuit du 27 au 28 avril des frappes aériennes dans le secteur de Yirma, au sud-est de Mondoro, dans le centre du Mali, contre un regroupement de groupes terroristes au cours desquels 12 terroristes ont été tués et 7 autres ont été blessés, indique un communiqué publié vendredi soir de l'état-major général des armées maliennes. Les frappes ont été menées dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro. Rappelons que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait suspendu le Mali de ses instances et avait également imposé en janvier de lourdes sanctions contre le pays. Les autorités au pouvoir au Mali ont adressé cette semaine une fin de non-recevoir aux exigences de la CEDEAO. Au Niger, l'opposition rejette le redéploiement des forces françaises et européennes. Les partis de l'opposition nigérienne ont rejeté jeudi la décision de redéploiement des forces françaises et européennes des opérations Barkhane et Takuba sur le territoire nigérien à travers une déclaration. Dans leur déclaration, les partis membres de la coalition pour une alternance démocratique de l'Alliance des candidats pour le changement et du Front républicain pour le changement ont indiqué que le vote de l'Assemblée nationale autorisant le redéploiement de ses forces est intervenu contre la volonté de l'écrasante majorité de leaders d'opinion, des corps socioprofessionnels, de la société civile, des activistes et autres acteurs majeurs. Ils ont appelé leurs militants à s'opposer par tous les moyens légaux avec des actions salvatrices et les forces vives de la nation à se tenir prêtes pour des actions légales et permanentes de protestation dont le calendrier leur sera communiqué dans les meilleurs délais. En RDC, le gouvernement congolais a appelé à réserver un caractère urgent au projet d'électrification du pays. Le président congolais Félix Tshisekedi a, lors de la 51e réunion du Conseil des ministres, rappelé aux membres du gouvernement que la Constitution de la République consacre le droit à l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour quiconque se trouvant sur le sol congolais. Ce droit est donc constitutif d'une obligation d'exécution pour le gouvernement, en dépit du caractère ultra-prioritaire que revêt l'électrification du pays, a déclaré le président Tshisekedi.